En suivant un de ces séides, le dragon réincarné aurait peut-être une chance de remonter jusqu'à son maître. Rand se remit en mouvement, courant aussi vite et aussi silencieusement que possible. Sous ses pieds, les pavés craquaient comme des os qu'on brise. Mais avec son ouïe amplifiée par le pouvoir, il était sans doute le seul à les entendre aussi nettement. S'arrêtant au pied d'une grande flèche de pierre recouverte de symboles mystérieux, Rand regarda prudemment devant lui. L'ombre qu'il avait aperçue n'était plus en vue. Pour s'aventurer de nuit dans Shadar Logoth, il fallait être fou, ou d'une témérité qui confinait à l'aliénation mentale. Car le démon qui souillait la ville, celui qui avait assassiné Aridol, tout simplement, n'était pas mort avec sa victime. Un peu plus loin, sortant d'une fenêtre, un tentacule de brume grisâtre dérivait vers son jumeau parfait, qui venait d'émerger d'une brèche béante dans un grand mur de pierre. Et les entrailles de cet abîme vertical brillaient comme si une lune tout entière s'y tapissait. La nuit venue, Mashadar rôdait dans sa ville-prison, présence méphitique capable de se manifester en même temps dans une dizaine ou une centaine d'endroits. Et quand on mourait entre ses griffes, l'agonie était toujours atroce. Dans tout le corps de Rand, la souillure du Saïdine pulsa plus fort, comme un cœur qui s'emballe. La douleur lointaine, dans son flanc, lui répondit en déchaînant une série d'éclairs fulgurants. Sous les bottes de Rand, le sol lui-même semblait palpiter. Le jeune homme se retourna, presque décidé à partir. À l'évidence, maintenant que Mashadar avait repris ses droits sur la ville, Samael avait dû quitter les lieux. Au fond, tout ça était peut-être un piège visant à offrir le dragon réincarné à la voracité sans limite de Mashadar. S'obstiner revenait peut-être à signer son arrêt de mort. Rand s'accroupit soudain derrière la flèche de pierre. Une bonne demi-fois plus grand que lui, voire davantage, deux trolloques en cotte de maille noire descendaient la rue. Les épaules et les coudes de leurs cuirasses hérissées de piques, ils brandissaient une lance, munie d'un long fer et d'un crochet encore plus dangereux. Grâce à sa vision amplifiée par le Saïdin, Rand distingua nettement les ignobles gueules de ces monstres. L'un arborait un bec d'aigle, là où aurait dû se trouver son nez et sa bouche, et l'autre un museau de sanglier, défense comprise. Et tous les deux crevaient de peur. S'ils adoraient les tueries et le sang, les trolloques redoutaient Shadar Logoth plus que tout au monde. Pour qu'ils soient ici, il fallait qu'un Myrdral les y ait contraints. Et aucun blafard ne serait entré à Shadar Logoth sans Samael pour l'y obliger. En d'autres termes, le rejeté n'était pas parti. Sinon, les monstres auraient été en train de courir vers la sortie, pas de traquer une proie. Parce qu'ils étaient en chasse. Le groin de sanglier qui humait l'air ne laissait aucun doute là-dessus. Une silhouette en haillons sauta soudain d'une fenêtre, bondissant sur les trolloques pour les frapper avec sa lance. Une aïelle, virande, avec son choufa autour de la tête, mais son voile abaissé. Le monstre au bec d'aigle hurla de douleur, quand la pointe de la lance s'enfonça dans sa poitrine. Alors qu'il s'écroulait, Groin de sanglier se retourna et frappa. Mais l'aïelle esquiva le coup, se baissant afin qu'il passe au-dessus de sa tête, puis embrocha sa seconde victime en moins d'une minute. Sans réfléchir, Rand se releva et courut.
« Lya !»
cria-t-il. Il l'avait crue morte, pour lui, dans cet enfer, après avoir été abandonné par son Karakarn. Lya de Charin Kosaïda, ce nom figurait en lettres d'or sur son monument aux morts intérieurs. La promise se tourna vers Rand, lance pointée d'une main, sa rondage brandie de l'autre. Le visage de Lya, joli malgré des cicatrices sur les deux joues, se tordit de rage.
« À moi !»
siffla-t-elle entre ses dents.
« À moi ! Personne ne peut venir ici ! Personne !»
Rand s'arrêta net. La lance prête à frapper visait son cœur. « Lya, tu me connais !» dit-il gentiment. « Je vais te ramener parmi les promises. Tu sais, t'es sœur de la lance. » Il tendit une main. Déconcerté, Lya inclina la tête sur le côté.
« Randaltor ?»
La guerrière baissa ses yeux écarquillés sur les deux trolloques morts, puis eut une expression horrifiée.
« Randaltor ?»
D'une main tremblante, elle releva son voile.
« Le Karakarn !»
Se détournant, Lya s'enfuit à toutes jambes. Rand clopina derrière elle, escalada des montagnes de gravats, s'étala, déchirant sa veste, se releva pour tomber de nouveau, manquant s'arracher le vêtement, se redressa encore et repartit au pas de course. Sa propre faiblesse lui semblait incroyablement lointaine, ainsi que la douleur. Mais même dans son cocon de vide, il ne pouvait pas forcer ce corps à aller au-delà de ses limites. Lya disparut dans la nuit au détour d'une rue. La suivant sans réfléchir, Rand se retrouva face à quatre Trollocs et à un Myrdraal, dont la cape noire, comme à l'accoutumée, ne bougeait pas d'un pouce, même quand il se déplaçait. La surprise des Trollocs ne dura pas longtemps. Armés de lances à crochets et d'épées, ils chargèrent. Derrière eux, le blafard dégaina sa lame noire dont les coups, même les plus légers, étaient presque aussi mortels que ceux de la dague de Fain. Rand n'essaya même pas de dégainer son épée au héron. Telle la mort incarnée et vêtue d'une veste rouge en lambeaux, il canalisa le pouvoir. Aussitôt, une épée de flamme apparut entre ses mains, les flux de Saïdine la parcourant de la poignée à la pointe. Un coup, et la tête sans yeux du blafard vola dans les airs. Tuer tous les adversaires en même temps, comme Rand l'avait vu faire par les Achamans au puits de Doumaï, aurait été plus simple. Mais tenter de modifier le tissage en pleine action pouvait faire perdre de précieuses secondes. Et les épées des monstres étaient tout aussi capables de tuer que celles du Myrdraal. Rand exécuta les figures d'escrime dans l'obscurité, la lueur de sa lame éclairant son visage et celui des Trollocs, qu'il tailla en pièces presque machinalement, fendant sans peine les côtes de mailles et la chair. La grande force de ces monstres, c'était le nombre, et il ne se privait pas d'en tirer avantage. À quatre, face à une épée née du pouvoir, c'était eux qui se retrouvaient en état d'infériorité numérique. Toujours dans la position appelée « tordre le vent », Rand fit disparaître son arme. À ses pieds, le dernier Trolloc finissait d'agoniser, ses cornes de boue craquant le sol. Comme toujours, le Myrdraal décapité agitait encore les membres. Même coupé en deux, les demi-humains étaient longs à mourir. À peine le combat terminé, des éclairs d'argent tombèrent du ciel sans nuages. Le premier percuta le sol à moins de quatre pas de Rand. Aveuglé par une lueur blanche, le jeune homme sentit son cocon de vide se dissiper. Alors qu'un deuxième éclair s'abattait, puis un troisième, le sol ondula sous Rand. À cet instant, il s'avisa qu'il était étalé face contre terre. Sonné, il se releva et s'écarta, au moment où une pluie d'éclairs dévassait les bâtiments environnants. Sans se soucier d'où il allait, il courut droit devant lui. L'important, c'était de s'éloigner. Au bout d'un moment, il reprit suffisamment ses esprits pour se demander où il était. Regardant autour de lui, il découvrit une vaste salle au sol de marbre, où béaient d'énormes trous obscurs. De très hauts murs clôturaient l'espace, d'innombrables étages de promenade à balustrade en faisant le tour complet. Alors qu'il avançait, le sol se déroba sous les pieds de Rand. Avec l'énergie du désespoir, il lança les bras en avant, et sa main droite se referma sur une aspérité indéfinissable. Suspendu par une main dans un trou obscur, Rand était incapable de dire s'il y avait quelques pieds de profondeur sous ses jambes, l'équivalent de la hauteur d'une cave, ou un à-pic qui le conduirait jusque dans les entrailles de la terre. Pour se sortir de là, il aurait suffi de tisser des flux d'air, pour les utiliser comme les barreaux d'une échelle. Mais Samael avait senti l'épée de flamme, qui utilisait pourtant une quantité relativement faible de Saïdine. Les éclairs ne s'étaient pas abattus tout de suite, certes, mais combien de temps lui avait-il fallu pour éliminer les Trollocs? Une minute? Moins que ça? Rand leva le bras gauche en quête d'une prise sur le bord du trou. Maintenant que le vide ne la filtrait plus, la douleur revint avec toute sa violence, et sa vision se brouilla. Pour ne rien arranger, sa main droite glissait sur ce qui devait être de la pierre, et il sentait faiblir les muscles de son bras. Il allait devoir... Une main se referma soudain sur son poignet droit.
« Quel crétin tu fais ?»
lança une voix masculine aux accents profonds.
« Estime-toi heureux que je n'ai pas envie de te voir mourir aujourd'hui. »
L'inconnu commença à hisser Rand hors de son trou.
« Cela dit, tu veux bien y mettre un peu du tien? Je n'ai pas l'intention de te porter sur mon dos, ni de te Samael à ta place. »
La surprise passée, Rand leva de nouveau la main gauche, saisit le bord du trou et se hissa vers le haut. Occultant la douleur, il parvint à retourner dans son cocon de vide et à se connecter à la source. Sans canaliser, mais en étant prêt à le faire. Quand sa tête émergea du trou, il vit enfin son sauveur. Un grand type un peu plus vieux que lui, avec des cheveux noirs de jais et une veste aussi sombre que celle des Achamans. Inconnu au bataillon, ce brave homme. En tout cas, ce n'était pas un rejeté, car il connaissait leur visage à tous. Enfin, en principe.
« Qui es-tu ?»
Toujours en plein effort, l'homme éclata de rire.
« Disons que je suis un type qui passe par là au bon moment. Tu as vraiment envie de bavarder ?»
Estimant qu'économiser son souffle était effectivement une bonne idée, Rand parvint à sortir du trou les épaules, la poitrine, puis la taille. Au-dessus de lui, s'avisa-t-il alors, une lueur semblable à celle de la lune illuminait la scène. Tournant la tête, Rand vit Machadar. pas un tentacule, mais une vraie nappe de brume qui se déversait d'un balcon pour tomber sur lui et sur son sauveteur. D'instinct, il leva la main gauche et envoya vers le haut une barre de feu liquide qui coupa en deux la masse de brume. En même temps, il vit que d'autres torrents de feu, une seconde lance liquide, jaillissaient de la main libre de son compagnon. Quand les deux torrents se touchèrent, Rand eut l'impression que sa tête allait exploser. Alors qu'il perdait contact avec le Saïdin, son cocon de vide disparut. Sa vision se dédoublant, il crut que le nombre de promenades venait brusquement d'augmenter et que deux hommes aux cheveux noirs gisaient au bord du trou d'où ils venaient inexplicablement de sortir, chacun se tenant la tête à deux mains. Cherchant Machadar, Rand ne vit nulle part la nappe de brume meurtrière. Une lueur demeurait au niveau d'une promenade, mais elle s'estompa rapidement. Même Machadar, une entité maléfique sans âme ni esprit, fuyait devant les torrents de feu. Dès qu'il se fut relevé, Rand tendit une main à son compagnon.
« Je crois qu'on ferait bien de filer. Que s'est-il passé ici ?»
L'inconnu se releva, négligeant l'aide que lui proposait le jeune homme. Il était au moins aussi grand que lui, ce qui arrivait très rarement, sauf avec les aïels.
« Je ne sais pas ce qui s'est produit. Mais si tu veux vivre, cours !»
Suivant son propre conseil, l'homme fonça vers une rangée d'arches donnant sur l'extérieur. Pas en direction du mur le plus proche, car Machadar était sorti de là. Tout en tentant de retrouver le vide, Rand suivit son compagnon en clopinant. Mais il n'était pas à mi-chemin quand une pluie d'éclairs s'abattit sur eux. Accélérant encore, ils franchirent une arche alors que le plafond et le sol s'écroulaient derrière eux. Assourdi par le vacarme, la vue brouillée par la poussière, Rand mit un bras devant son visage et traversa au pas de course une nouvelle salle, dont le plafond menaçait lui aussi de s'écrouler. Déboulant à l'air libre dans une rue, il fit encore quelques pas avant de s'arrêter. Dans son flanc, la douleur était telle qu'il se serait volontiers plié en deux. Mais il s'en abstint, craignant que ses jambes en profitent pour se dérober. Son talon le torturait. Même s'il aurait juré qu'un an s'était écoulé, depuis qu'un filament rouge d'air et de feu l'avait transpercé. Son sauveteur le regardait tranquillement. Même couvert de poussière, ce gaillard parvenait à ressembler à un roi.
« Qui es-tu ? »
demanda de nouveau Rand.
« Un des hommes de Taïm ? Où as-tu appris tout seul à canaliser ? Tu pourrais aller à Kemlin, à la Tournoire. Ainsi, tu n'aurais plus besoin d'avoir peur des Aes Sedai. »
En disant ces mots, et sans comprendre pourquoi, Rand sentit qu'il fronçait les sourcils.
« Je n'ai jamais eu peur des Aes Sedai, » lâcha l'inconnu. « Tu devrais t'en aller, je pense. Mais si tu choisis de rester pour tuer Samael, tu devrais essayer de réfléchir comme lui. Tu as prouvé que c'est dans tes cordes. Il a toujours aimé tuer un homme à l'endroit d'un des triomphes de sa cible. Quand ce n'est pas possible, un lieu que sa victime a marqué comme sien lui suffit.
« Les chemins, » souffla Rand. « Le portail qui donne accès aux chemins. »
S'il avait marqué un endroit à Shadar Logoth, c'était bien celui-là.
« Il m'attend à côté du portail. Et il m'a tendu un piège. »
Des protections comme celles utilisées à Ilian, conçues pour détecter un homme qui canalise. Samael avait très bien préparé son affaire. L'inconnu eut un rire ironique.
« Tu vas pouvoir trouver ton chemin, je crois, si quelqu'un te tient par la main. Essaie de ne pas t'en mêler les pinceaux. Beaucoup de plans devront être revus si tu te fais tuer maintenant. »
L'homme se détourna et se dirigea vers une ruelle, non loin de là.
« Attends !»
cria Rand. Le type continua sans se retourner.
« Qui es-tu ? De quel plan parles-tu ? »
L'homme disparut dans la ruelle. Rand courut, mais quand il arriva, il n'y avait plus personne. Deux rangées de murs intacts flanquaient la venelle, qui courait sur une centaine de pas jusqu'à une rue, où une lueur maladive signalait la présence de Machadar. Une autre partie de lui, pour ainsi dire. L'homme n'avait pas pu se volatiliser. Il aurait bien eu le temps d'ouvrir un portail, s'il savait comment faire. Mais Rand aurait aperçu les inévitables lueurs rémanentes, et il aurait senti qu'on canalisait le Saïdin. N'était qu'il n'avait rien capté lorsque l'homme avait lancé des torrents de feu un peu plus tôt. Penser à cet instant, aux deux lances qui s'étaient touchées, brouilla de nouveau la vision de Rand. Un instant, il revit le visage de l'homme, très net, alors que tout le reste était flou.
« Au nom de la lumière, qui es-tu ? »
marmonna Rand, en secouant la tête pour s'éclaircir les idées.
Oui. « Qui es-tu ?»
Quelle que fût la réponse, l'inconnu n'était plus là, et Samael, lui, se trouvait encore à Shadar Logoth. Au prix d'un effort, Rand parvint à retrouver le vide. La souillure du Saïdine palpitait dans tout son corps, faisant trembler jusqu'au vide. Mais la faiblesse des muscles et la douleur s'estompèrent de nouveau. Aujourd'hui, Rand Altor allait tuer un des rejetés. Toujours boitillant, il avança lentement dans les rues, en prenant garde à l'endroit où il mettait les pieds. Il n'était toujours pas silencieux, mais il y avait tant de bruit dans la nuit. Des cris, surtout, retentissant dans le lointain. Maître de la nuit, Mashadar, sans âme ni esprit, tuait toutes les victimes qu'il trouvait. Dans Shadar Logoth, des trollocs mourraient cette nuit, comme d'autres lors d'un très lointain passé. Parfois, à un carrefour, Rand apercevait un petit groupe de monstres accompagnés ou non d'un myrdraal. Aucune de ces créatures ne l'ayant repéré, Rand ne les attaqua pas. Afin que Samael ne le localise pas pendant qu'il canaliserait? Eh bien, pas seulement. Les trollocs et les myrdraal que Mashadar ne tuerait pas étaient quand même condamnés. Alors qu'il les avait sans nul doute conduits ici en empruntant les chemins, Samael ignorait de toute évidence de quelle façon Rand avait marqué le portail. À bonne distance de la place où se trouvait l'entrée des chemins, Rand s'arrêta et regarda autour de lui. Non loin de là, une tour était encore intacte. Et si elle ne tutoyait pas le ciel, contrairement à beaucoup d'autres, son sommet culminait quand même à quelques 150 pieds de haut. Le jeune homme approcha de l'entrée que ne défendait plus aucune porte, la franchit et s'engagea dans un escalier en colimaçon, chichement éclairé par la lumière qui filtrait de rares meurtrières. Ses bottes soulevant un nuage de poussière, il progressa lentement, cette ascension se révélant une torture pour son flanc et son pied blessé. Une lointaine torture, mais... Arrivé au sommet, Rand s'appuya au parapet pour reprendre son souffle. Si Min apprenait ce qu'il avait fait, pensa-t-il vaguement, il n'aurait pas fini d'en entendre parler. Même chose pour Amis ou Katsuane. Au-delà de toits très souvent effondrés, il localisa la grande place qui avait été un des hauts lieux d'Aridol. Jadis, un bosquet ogier s'étendait à cet endroit. Mais environ 30 ans après le départ des bâtisseurs qui avaient construit toutes les plus anciennes zones de la ville, les habitants avaient coupé les arbres pour gagner de l'espace vital. Des palais parfois en ruine entouraient la place, et la lueur de Mashadar sourdait de quelques fenêtres. Une montagne de gravats occupait toute une extrémité du site. Mais au centre, le portail, à première vue un simple bloc de pierre, se dressait toujours fièrement. De son point d'observation, Rand ne pouvait pas voir les délicates gravures de feuilles et de lianes qui recouvraient le monolithe. En revanche, il distinguait très bien les composantes renversées de la clôture qui le défendait par le passé. Une structure métallique forgée et maintenue par le pouvoir, qui gisait à présent sur le sol. Brillante comme au premier jour, car éternellement épargnée par la rouille. Rand voyait aussi le piège qu'il avait tissé autour du portail, inversé, afin que lui seul puisse le distinguer. À l'œil nu, impossible de dire si les trollocs et les myrdraal étaient arrivés par là. Mais si c'était le cas, il leur restait peu de temps à vivre. Et leur fin ne serait pas plaisante. Les pièges que Samael avait mis en place à son intention étaient bien entendu invisibles, et il lui réservait sans nul doute un sort peu enviable. Au début, Rand ne parvint pas à repérer le rejeté. Puis il vit une ombre se déplacer parmi les colonnes à cannelure d'un palais. Quelqu'un, mais pas nécessairement Samael. Mieux valait attendre d'être sûr, quand on savait n'avoir qu'une chance de faire mouche. L'inconnu sortit de l'abri des colonnes et s'engagea sur la place. Tournant la tête à droite et à gauche, c'était bien Samael, de la dentelle blanche brillant à son cou, campé là pour voir sa proie entrer sur la place et se précipiter vers ses pièges. Dans son dos, une lueur apparut aux fenêtres du palais et se fit de plus en plus vive. Tandis que le rejeté sondait la place, Mashadar commença à sortir de sa tanière. Plusieurs tentacules de brume se réunissant pour former une nappe évoquant une marée. Quand Samael se déplaça légèrement sur le côté, cette masse grise se mit à dériver vers lui, prenant de la vitesse à mesure qu'elle fondait vers le sol. Rand secoua la tête. Samael était à lui. Même s'il entendit dans sa tête l'écho de l'avertissement de Katsuane, il tissa des torrents de feu et leva une main. Un cri déchira les ténèbres. Un cri de femme éprouvant une souffrance au-delà de l'imaginable. En même temps que Rand, Samael tourna la tête vers la montagne de gravats d'où provenait ce hurlement. Tout en haut des débris, une silhouette vêtue d'une veste et d'un pantalon se découpait dans la nuit, un unique tentacule de brume touchant sa jambe. Les bras en croix, la femme se débattait sans parvenir à fuir. Et son cri semblait être en réalité un nom mal articulé. Celui de Rand, bien sûr.
Lia.
D'instinct, le jeune homme tendit un bras comme s'il pouvait, de si loin, saisir Lya par un poignet et la tirer vers lui. Hélas, rien ne pouvait sauver une proie touchée par Machadar. Pareillement, si la dague de Fane avait traversé le cœur, personne n'aurait rien pu pour Rand.
« Lya, » murmura-t-il de nouveau, tandis que les torrents de feu jaillissaient de sa main.
Une fraction de seconde durant, la silhouette de la promise fut encore visible, bizarrement décomposée en ligne droite et blanche. Puis elle disparut, avalée par la mort, sans avoir dû agoniser. Hurlant de rage, Rand balaya toute la place avec ses torrents de feu, faisant disparaître des bâtiments et des gravats dans les ravages d'une destruction intemporelle. Juste avant que le feu liquide touche la nappe de brume qui se déversait désormais sur la place, déferlant comme une marée en direction du portail et d'autres vagues de brouillard gris sorties d'un autre palais, en face du premier, le jeune homme se coupa du Saïdin. Samael devait être mort. Il ne pouvait pas en être autrement. Il n'avait pas eu le temps de s'enfuir, ni de tisser un portail. Et s'il avait réussi par miracle, Rand aurait senti qu'il canalisait le pouvoir. Le rejeté était mort, tué par un démon presque aussi maléfique que lui. Des émotions tourbillonnaient autour du cocon de vide. Rand eut envie d'éclater de rire, ou de pleurer, peut-être. Venu ici pour abattre un rejeté, il avait fini par tuer une femme qu'il avait abandonnée à son destin, quelque temps auparavant. Tandis que la lune, quasiment à son deuxième quartier, descendait lentement dans le ciel, Rand resta un long moment au sommet de la tour, regardant Machadar submerger la place, jusqu'à ce que seul le haut du portail émerge encore de la brume. Puis le démon se retira lentement, partant en quête d'une autre proie. Si Samael avait survécu, il aurait pu profiter de cette occasion pour tuer très facilement le dragon réincarné. À dire vrai, Rand n'était pas très sûr qu'il en aurait eu le cœur brisé. Pour finir, il ouvrit un portail, généra une plateforme, un simple disque blanc et noir sans parapet, et repartit pour Illyan. Cette façon de voyager, obligatoire quand on ne connaissait pas exactement son point d'arrivée, étant plus lente que l'autre, il lui fallut près d'une demi-heure pour atteindre sa destination. Durant tout ce temps, il grava au fer rouge le nom de Lya dans son esprit, afin de ne jamais l'oublier et de sentir pour toujours la cuisante douleur de sa perte. Pleurer l'aurait sans doute apaisé, mais il doutait d'en être encore capable. Bachéré, Dashiva et les autres achamans attendaient Rand dans la salle du trône du palais royal, l'exacte réplique de celle où il avait été dans le bâtiment d'en face. Les mêmes lampes, les mêmes frises sur les murs de marbre, la même estrade blanche. Oui, une copie conforme, mais en légèrement plus grand. Et sur l'estrade, au lieu de 9 fauteuils, se dressait un seul et unique trône, avec des accoudoirs en forme de léopard et 9 grosses abeilles d'or au-dessus de la tête d'un éventuel occupant. Rand choisit de s'asseoir sur les marches qui donnaient accès à l'estrade.
« J'en déduis que Samael est mort, »
dit Bachéré, avec un regard appuyé pour la veste en lambeaux du dragon réincarné.
« Oui, il n'est plus de ce monde. »
Dashiva en soupira de soulagement.
« La ville est à nous, » déclara Bachéré. « Ou plutôt à vous, seigneur dragon. »
Il eut un petit rire.
« Dès que les gens idoines ont su qu'il s'agissait de vous, les combats ont très vite cessé. Ce fut assez facile, tout compte fait. »
Façon de parler, pensa Rand. La tache de sang séché sur la manche déchirée du seigneur racontait une toute autre histoire.
Le conseil attendait votre retour avec impatience, et même une certaine anxiété, peut-on dire.
Au bout de la salle, 8 hommes en sueur se tenaient debout et immobiles. En entrant, Rand avait remarqué ces dignitaires en veste de soie, brodés de fils d'argent ou d'or sur les revers et les manches. De la dentelle au col et au poignet, tous ces hommes portaient en travers de la poitrine une large écharpe de soie verte, sur laquelle s'affichaient 9 abeilles dorées. Sur un geste de Bachéré, ils avancèrent en s'inclinant tous les 3 pas à l'intention de Rand, comme s'il était un roi dans ses plus beaux atours. Arborant une barbe sans moustache, comme quelques-uns de ses collègues, l'homme de grande taille qui semblait diriger le groupe avait du mal à cacher son inquiétude. Pourtant, il n'en perdait pas sa dignité naturelle.
« Seigneur dragon, » dit-il, s'inclinant de nouveau, les 2 mains sur le cœur. « Pardonne-moi, mais le seigneur Bren est introuvable et... »«
Il ne viendra pas, » coupa Rand.
Un muscle se contracta sur la joue de l'homme.
« Si tu le dis, seigneur dragon. Je suis le seigneur Grégorine den Luchenos. En l'absence du seigneur Bren, je parle au nom du conseil des 9. Et nous t'offrons... »
Grégorine fit un signe de la main à l'intention d'un de ses compagnons, plus petit mais barbu comme lui, qui approcha avec, sur les bras, un coussin recouvert d'un carré de soie verte.
« Eh bien, Nous t'offrons le royaume d'Ilian. »
Le petit homme souleva le carré de soie, découvrant une lourde couronne de feuilles de laurier en or massif.
« Bien entendu, la capitale t'appartient aussi, » continua Grégorine. « Nous avons mis fin à toute résistance. Accepte donc cette couronne, le trône et tout le royaume. »
Parfaitement immobile, Rand regarda longuement la couronne. En Théar, des gens avaient pensé qu'il voulait se proclamer roi. Au Cairienne et en Andorre, d'autres personnes avaient redouté qu'il en ait l'intention. Mais c'était la première fois qu'on lui offrait une couronne.
« Pourquoi ce présent ? Matin Stepaneos est si pressé que ça de perdre son trône ?»«
Le roi Matin a disparu il y a 2 jours de ça, » dit Grégorine. « Certains d'entre nous ont craint... Eh bien, que le seigneur Bren ait un rapport avec cet événement, car il a... »
Grégorine déglutit péniblement.
« Brend avait une grande influence sur le roi. Certains parleraient d'une influence excessive. Mais ces derniers mois, d'autres préoccupations l'ont un peu distrait. Et Matin en a profité pour reprendre du poil de la bête. »
Quand Rand tendit un bras pour prendre la couronne de laurier, les lambeaux de sa veste et de sa chemise s'écartèrent pour révéler le dragon enroulé autour de son avant-bras, dont les écailles brillaient aussi intensément que l'or du magnifique bijou.
« Tu ne m'as toujours pas dit pourquoi on m'offre ce cadeau, »
dit-il, en faisant tourner la couronne dans ses mains.
« Parce que j'ai conquis Liliane ?»
Il avait aussi conquis Théar et le Cairienne, ce qui ne l'empêchait pas d'avoir des ennemis dans les deux pays. Mais au moins, il ne cherchait pas à se faire aimer.
« Ça entre en ligne de compte, » répondit sèchement Grégorine. « Mais même dans ces circonstances, nous aurions pu choisir un membre du conseil. Par le passé, il est déjà arrivé qu'un conseiller monte sur le trône. » Mais le grain que Théar nous a envoyé sur ton ordre a mis ton nom en tête de la liste des prétendants. Sans cette manne, beaucoup de gens seraient morts de faim. Bren faisait en sorte que l'armée ait toute la nourriture, jusqu'au dernier quignon de pain.
Rand sursauta, puis lâcha la couronne d'une main et porta un index à sa bouche. Au milieu des feuilles de laurier, presque invisibles, se dressaient de petites épées, et il venait de se piquer à l'une d'elles. Dans quel lointain passé avait-il ordonné aux Théariens de livrer du grain aux Ilianiens, leurs anciens ennemis, les menaçant de mort s'ils refusaient? Cela lui semblait si loin. Et il n'avait jamais songé que ces livraisons pouvaient avoir continué, tandis qu'il préparait l'invasion de Liliane. Peut-être parce qu'ils avaient peur d'aborder la question, les Théariens avaient dû juger plus prudent de ne pas les interrompre. Au fond, cette couronne lui revenait peut-être de droit. Avec précaution, Rand posa la couronne sur sa tête. Une moitié des épées avait la pointe vers le haut, et l'autre vers le bas. Aucune tête ne pouvait porter cet ornement comme si de rien n'était.
« Que la lumière brille pour Rand Altor !»
dit Grégorine en s'inclinant.
« Le roi de Liliane !»
Les 7 autres seigneurs reprirent en chœur.
« Que la lumière brille pour Rand Altor, le roi de Liliane !»
Un peu blasé, vu qu'il était l'oncle d'une reine, Bachéré se contenta d'incliner la tête. Dashiva, en revanche, se montra plus enthousiaste.
« Longue vie à Rand Altor ! Le roi du monde !»
Flynn et les autres achamans firent écho à leurs compagnons.
« Longue vie à Rand ! Longue vie à Rand Altor, le roi du monde !»
Des mots plutôt agréables à entendre, il fallait l'avouer. Cette histoire se répandit comme toutes les histoires, se modifiant avec le temps et la distance. Transmise par les caboteurs ilianiens, puis par les caravanes de marchands, et enfin par des pigeons voyageurs expédiés en secret, elle fit des vagues qui en générèrent d'autres, puis créèrent de véritables déferlantes. Une armée était arrivée en Iliane, finirent par dire les récits. Une armée composée d'Aiel, d'Aes Sedai jaillit de nulle part, et d'hommes capables de canaliser, chevauchant des créatures volantes. Une armée qui comptait même des cavaliers du Saldaea. Mais ça, très peu de gens le crurent, tant c'était énorme. Selon certaines sources, le dragon réincarné avait reçu la couronne de laurier des mains du Conseil des Neufs. D'autres affirmaient que c'était Matin Stepaneos, humblement agenouillé, qui la lui avait remise. D'autres encore prétendaient que le dragon réincarné avait arraché l'ornement de la tête du roi avant de le faire décapiter. Non, en vérité, le dragon réincarné avait mis le royaume à feu et à sang, enterrant le souverain sous les décombres. Mais non, avec ses achamans et son armée, il avait carrément rayé Ilian de la carte du monde. Foutaise, c'était Eboudar qui l'avait rasé, après sa conquête de Lilian. Un unique fait revenait dans tous ces récits. La couronne de laurier, rebaptisée, se nommait désormais la couronne d'épée. Bizarrement, les hommes et les femmes qui colportaient cette histoire sous une multitude de formes éprouvait souvent le besoin de la conclure par une seule et même phrase. « Une tempête approche », disait-il en regardant vers le sud, soudain plein d'inquiétude. « Une tempête approche ». Maître des éclairs et cavalier des grands vents, le crâne ceint d'épée, tisserand du destin. Celui qui croit faire tourner la roue du temps découvrira trop tard qu'il ne domine rien. Tiré d'une traduction partielle des prophéties du dragon, attribué au seigneur Mangoré Kiramin, barre d'épée d'Aramel et champion de Karagain Makonar, ce quatrain fut rédigé dans ce qu'on nommait alors, autour de 300 AD, la langue vulgaire. Vous venez d'écouter La roue du temps, tome 7, Une couronne d'épée, de Robert Jordan, traduit de l'anglais par Jean-Claude Mallet, lu par Arnaud Loridan. Une production Audible Studio.